Suivre directement dans les écritures, les placeurs. On va les saluer. Mon père et Michel, juste à l'arrière. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, Michel, puis M. Gertin, juste vous lever. Levez-vous un petit instant. Je pense qu'il ne m'a pas entendu. Il a entendu, c'est beau. C'est le père d'Esther. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici avec son épouse Michel. Alors, si vous avez besoin d'une copie de la Bible, juste lever la main, on va dans Matthieu 23, verset 13, et Esther va nous faire la lecture des Saintes Écritures, d'accord?
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui y est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Merci. Quel passage, n'est-ce pas? Malheur à vous! J'ai 2-3 annonces avant de rentrer dans le passage. Avant d'aller dans un mot de prière, je voulais juste attirer votre attention. Ça a été mentionné tout à l'heure. On a l'événement qui s'en vient avec Tony Anthony. Je ne sais pas si vous avez acheté vos billets, mais je vous encourage fortement à le faire. C'est un homme charmant qui a une belle personnalité. Lorsqu'on lit son livre, on peut se dire « Wow! » Et puis, qu'est-ce que ça va avoir de l'air en avant? C'est un homme très humble. Dans les communications qu'on a eues avec lui, un monsieur vraiment qui fait tout ça pour l'œuvre de Dieu, très humblement, mais qui a toute une histoire. Alors, si vous n'avez pas lu le livre, il faut que vous le lisiez d'ici demain. Vous irez le chercher pour le donner à des amis. Cette semaine, avec les enfants, depuis un an, on va dans une école de karaté. On fait notre sport 2 fois par semaine. Alors, cette semaine, j'invite mon prof de karaté à venir écouter Tony Anthony. Donc, faites-le, allez acheter vos billets, allez acheter des billets pour des amis. Ça va être une belle opportunité qu'ils puissent entendre l'Évangile par une vie qui a vraiment été bouleversée. Et des fois, on a l'impression que nos histoires sont plus simples. C'est bon de voir aussi que le Seigneur peut aller chercher des gens très, très loin. Une autre chose que je voulais mentionner ce soir, il y a la formation pour la fusion. Et je pousse un petit peu si vous êtes en train de vous demander si vous allez venir ici. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, vous pouvez passer au prochain appel. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont entendu parler de ce ministère-là, qui est le ministère d'accueil, ce soir, il y a une formation. Et rappelez-vous la première fois que vous avez mis le pied dans une église évangélique. Comment auriez-vous aimé être accueilli? Est-ce que vous auriez aimé ça que quelqu'un aille vers vous, qu'il prenne du temps avec vous pour aller prendre un café, jaser avec vous, vous présenter l'Église, répondre à vos questions, vous aider à vous retrouver quand vous rentrez dans un centre d'achat comme ici et dire est-ce que c'est ça l'Église puis où est-ce qu'on s'en va? Mais la fusion fait tout ça, d'accord? Alors ce soir, il y a une formation, c'est à 18h30, je pense. Si vous êtes membre, vous avez à cœur de vous impliquer, venez ici ce soir. Alexandre a besoin de 30 personnes, c'est bon? 30 personnes et tranquillement, on va pouvoir accueillir les gens. On a des visiteurs à toutes les semaines. C'est une joie de les avoir. On veut les accueillir comme Christ l'aurait fait avec tout l'amour de Christ. Une dernière chose que je tiens à mentionner, je reviens sur le fait qu'on a notre réunion de membres la semaine prochaine. Maintenant, la réunion de membres, on en a chaque année. Pour ceux qui ne sont pas familiers, vous ne savez pas de quoi on parle. On est une assemblée congrégationaliste et donc les membres participent aux décisions, doivent venir donner leur « amen » ou non aux décisions que le conseil des anciens des pasteurs donne à l'Assemblée. Cette réunion-là a lieu la semaine prochaine. Ça a lieu chaque année. On vote le budget, on vote les finances de l'Église, tout ça. Cette année, on va, par la grâce de Dieu, accueillir deux nouveaux diacres. Mais il y a quelque chose d'autre de spécial aussi cette année. D'important dans la vie de l'Église de l'Espoir et d'important dans la vie de la famille Marquis. Et pour avoir passé par là, c'est un moment qui est important. On l'a mentionné dans les rencontres avec les leaders, on l'a mentionné à la rencontre d'information aussi. Nous voulons vous présenter le projet d'aller de l'avant. Vous savez qu'Alexandre fait des études. Alexandre, c'est le jeune homme ici qui chante tellement bien, mais qui un jour aussi va prêcher tout autant qu'il chante. Et Alexandre est en train de faire une maîtrise en théologie. Et il sert déjà, c'est un des anciens ici, c'est un des pasteurs, mais il n'est pas rémunéré pour ça, pour son service ici. Et donc, on veut vous présenter le projet d'embaucher Alexandre à compter du mois de septembre à raison de 3 jours semaine. Et il va consacrer une grande partie de ce temps-là à travailler comme pasteur responsable de l'évangélisation. Donc, c'est un projet qui est important. C'est un projet qui est important pour la vie de l'Église. On a besoin d'entendre le « Amen » de l'Église sur une question comme celle-là. Et pour être passé par là, Alexandre et Cynthia ont besoin d'entendre votre « Amen ». Et donc, votre participation la semaine prochaine à la réunion de membres est très importante. Je vous encourage à rester pour la communion fraternelle. En passant, vous n'êtes pas membre, vous désirez voir ce qu'on mange en hiver lorsqu'on est membre de l'Église, vous êtes bienvenus. Vous ne pourrez pas participer au vote, tout ça, bien sûr, mais vous êtes bienvenus assister à la réunion. Alors, restez pour le dîner, assistez après ça aux discussions et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur peut appeler un jeune homme à venir consacrer tout son temps à servir le Seigneur dans la prédication de la parole. Vous allez voir comment l'Assemblée fonctionne ensemble, comment est-ce qu'on avance ensemble. D'accord? Alors, je vous encourage à mettre ça de côté. Ce sont des moments importants dans la vie du corps de Christ. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es invisible ce matin. Tu n'es pas présent de corps, Seigneur, parce qu'après ta résurrection, tu es retourné au Père. Et pourtant, tu es bien présent au milieu de nous ce matin. Par ton esprit qui habite en chacun de tes enfants, par ta présence particulière au milieu de tes enfants lorsqu'ils s'assemblent pour invoquer ton nom. Tu es présent au milieu de nous par la prédication de ta parole, parce que tu habites au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux invoquer ton nom ce matin pour te demander de venir parler à nos cœurs. Seigneur, toute la prédication du monde, je le confesse de ma bouche, ne changera rien dans nos vies. Si ton esprit, Seigneur, ne vient pas bouleverser nos cœurs. Seigneur, qui suis-je pour exprimer tout l'amour que tu avais pour Jérusalem? Qui suis-je, Seigneur, pour exprimer tout l'amour que tu as pour nous, l'appel que tu places sur nos vies, pour te représenter, Jésus? Alors viens et parle-nous ce matin. Parce que nous sommes sourds, Seigneur, nous avons le cœur dur, Seigneur. Viens et parle-nous. Fais-nous entendre ta voix, tes appels sur nos vies, Seigneur. Viens et rends nos cœurs tendres, Seigneur. Tendres à l'œuvre de ton esprit en nous. Afin, Seigneur, qu'aucun malheur ne soit prononcé sur nous par ta bouche, comme tu l'as fait sur ces scribes et ces pharisiens. Nous voulons, Seigneur, que tu prononces sur nous des paroles de bénédiction, de bonheur et d'espérance et de joie. Aide-nous à t'écouter ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que c'est possible que Dieu nous appelle, que Dieu nous parle, que Dieu s'adresse à nous, que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à nous, nous appelle? Nous appelle encore, nous parle encore par son Esprit Saint et que nous demeurions sourds à sa voix, sourds à son amour et à sa compassion. Est-ce que c'est possible d'être en face de Jésus-Christ, qu'il nous appelle en face et de demeurer sourds, complètement sourds à son appel? C'est ce qui se passe ici avec Jérusalem. C'est ce qui se passe ici avec Israël. D'accord? Jérusalem représente tout Israël ici. Et il semble que ce peuple avait Jésus-Christ devant lui, Emmanuel, Dieu parmi nous, qui lui parlait et n'entendait rien, n'entendait aucun appel de sa part. Vous savez, Dieu est invisible. Hein? Jésus n'est pas là physiquement au milieu de nous. Et des fois, on a l'impression que Dieu est un être mystérieux. C'est un être qui est loin de nous. Je m'adresse autant aux chrétiens qu'à ceux qui sont encore en train de se poser des questions, à savoir est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Ceux qui se demandent si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, je m'adresse autant à l'un qu'à l'autre. Nous avons souvent l'impression que Dieu est mystérieux, qu'il est loin de nous. La question que j'ai pour vous ce matin, c'est est-ce qu'il est vraiment loin de nous ou est-ce que ce ne serait pas nous qui ne voulons pas l'entendre? Est-ce que ça se pourrait qu'il soit tout près de nous, en train de nous parler, de nous appeler, de nous dire combien il nous aime? Et si on est chrétien, de nous dire tout ce qu'il veut changer dans nos vies, combien il veut nous bénir. Est-ce que ça se pourrait qu'il soit tout près de nous, toutes ces années-là, à nous appeler, mais nous demeurons sourds à son appel? Parce que nous ne voulons pas l'écouter. Parce que nous ne voulons pas l'entendre. Est-il vraiment si loin de toi? Je parle aux chrétiens un instant. Ceux qui professent d'avoir Jésus-Christ pour Seigneur. Vous savez, on regarde des gens autour de nous, dans nos familles, qu'on aime beaucoup. Puis on leur parle du Seigneur, puis on leur parle de l'Évangile. Puis on les voit souvent avancer dans leur vie de malheur en malheur. Et on les regarde et puis on les voit, ils sont les premiers auteurs de leur malheur, les décisions qu'ils sont en train de prendre, les choix qu'ils sont en train de faire. Plusieurs d'entre eux sont engagés à 100 000 à l'heure dans un processus d'autodestruction par toutes sortes de choix qu'ils font. Et on est là et on a l'Évangile qui est là, on a la parole de Dieu qui est là, on a la grâce qui est là. On les voit des fois sombrer dans des dépressions, écrasés par de la culpabilité, rongés par des remords, toutes sortes de choses. Et on est là, on a l'Évangile, puis on leur dit, « Mais Dieu est juste à côté de toi. » Vous avez des gens comme ça dans votre famille? Vous dites, « Mais quand est-ce qu'il va entendre? » Et là, on regarde comment est-ce que Dieu est en train de mettre des choses en place dans leur vie, comment est-ce que Dieu intervient dans leur vie, et nous voyons de nos yeux les interventions de Dieu pour les bouleverser. Êtes-vous d'accord? On voit Dieu dans sa souveraineté les bousculer, les bouleverser, même envoyer des missionnaires. J'ai partagé, je ne sais pas combien de fois à cette assemblée, mon père était en Turquie. Ce n'est pas un pays particulièrement chrétien, la Turquie. Et alors que j'avais négligé de prier régulièrement pour lui, un jour je me suis repenti de cela, mais j'ai dit, « Seigneur, je vais prier pour lui, mais comment je vais faire pour lui parler de toi? » Il est en Turquie. Envoie-lui quelqu'un qui va lui parler de toi, Seigneur. Bien, Guy Leduc, missionnaire en Turquie, m'a envoyé un courriel quelque temps après pour me dire, « Est-ce que tu aurais un père qui s'appelle Jean-Pierre Étier? » Oui? Ah, bien, on a découvert qu'on était des partenaires d'escalade, d'alpinisme, puis on s'est trouvé à Istanbul. Je suis en train de parler du Seigneur. Alors, vous voyez, on regarde, hein? On voit ces gens qu'on aime, on prie pour eux, puis on voit comment Dieu, dans sa souveraineté, est en train de placer des choses, intervenir dans leur vie, et on trouve ça magnifique. Mais je m'adresse à vous aussi ce matin, chrétien, pour dire, est-ce que Christ n'est pas là à côté aussi, depuis des années, à te dire, tu cours après le bonheur, tu te sens misérable dans ta vie chrétienne, tu as perdu le bonheur, la joie de ton salut, mais est-ce que tu vas entendre mon appel enfin? Je te le dis, ce que tu dois abandonner. Je te le montre, je te l'ai dit par ton épouse, par les frères, par la parole, par ta vie, par les circonstances. Est-ce que tu vas entendre ma voix enfin? Est-ce que ça se peut que Christ soit beaucoup plus près qu'on le pense, mais que nous demeurions sourds à entendre sa voix parce que nous ne voulons pas l'écouter? Est-ce qu'on veut vraiment entendre ce que Jésus-Christ a à nous dire? Ou est-ce qu'on veut diriger nous-mêmes la barque, diriger nous-mêmes notre vie? Dans le passage ici, Jésus-Christ dit à Jérusalem, à Israël, à ses chefs, « Vous n'avez pas voulu de mon amour pour vous. Vous n'avez pas voulu de moi, c'est pour ça que je m'en vais. C'est vous qui m'avez rejeté. » Pourtant, je vous envoyais tellement de messagers. Tant de fois je vous ai appelé, j'ai envoyé mes prophètes pour vous ramener à moi. Et si vous êtes familier un petit peu avec les Saintes Écritures, on a une grande partie de l'Ancien Testament où c'est ça, ce sont les prophètes. Combien de livres de prophètes qui viennent et qui veulent ramener Israël auprès de Dieu. Ce sont tous ces messagers que Christ a envoyés pour ramener Israël à lui. Je vous ai envoyé tant de messagers. Combien de messagers? Combien de fois je vous ai rappelé à moi tous les prophètes qui devaient te ramener à la repentance et qu'Israël ne voulait pas écouter? Maintenant, l'ironie, lorsqu'on arrive à l'époque de Jésus, et Esther vient juste de le lire dans le passage, c'est que les chefs religieux de l'époque, eux regardent en arrière, ils regardent à l'époque des grands prophètes et disent, si nous, on avait vécu à cette époque-là, nous n'aurions pas fait comme nos pères. Jérémie n'aurait pas eu besoin de se lamenter si nous avions vécu à son époque. Nous, on aurait écouté Jérémie. On n'aurait pas fait comme eux. Et là, ils respectent, ils honorent les prophètes. Mais voyez-vous l'ironie? Nous sommes à l'époque de Jésus. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour annoncer la venue du Messie. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jean-Baptiste? Ils l'ont rejeté. Les chefs religieux ont rejeté Jean-Baptiste comme leur père avait rejeté les prophètes avant. Et on est rendu dans Matthieu 23, deux jours avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ. Ils sont en train de rejeter le Messie lui-même. Sont-ils vraiment si différents de leur père? Jésus leur dit, vous faites exactement la même chose. Pensez pas que vous êtes plus spirituels que vos pères et que vous écoutez davantage ma voix. C'est faux. Regardez ce que vous avez fait avec Jean-Baptiste. Regardez ce que vous avez fait avec moi. Et là, évidemment, l'ironie de tout ça, c'est que Jésus s'est manifesté d'une manière incroyable, comme ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité, à travers des miracles, à travers une puissance dans sa parole. Les gens l'écoutaient et ce qui sortait de leur cœur, c'est parole de Dieu ce qui sort de sa bouche. Et pourtant, ils le rejettent quand même. Ils demeurent sourds à la voix de Dieu. Ils demeurent sourds à la voix de Jésus-Christ. Rien n'y change, même si c'est le Fils de Dieu qui vient. Alors, si on essaye de remettre la grande image, le big picture de ce qui se passe dans Matthieu, d'accord? Parce qu'on est rendu dans Matthieu 23. Maintenant, l'évangile de Matthieu commence sur quoi? Jésus vient et nous est dit que Jésus, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous, c'est ça que ça signifie. Depuis des siècles, ils attendent le Messie, rejetant les prophètes, mais attendant le Messie. Le Messie vient au milieu d'eux. Il vient pour sauver son peuple. C'est ce qu'il nous est dit dans Matthieu 1, 21. Il vient pour sauver son peuple de ses péchés. Emmanuel, ça ne peut pas être plus concret que ça. Dieu dit, je vais m'incarner dans la personne de mon Fils. Je vais venir marcher au milieu de vous. Je vais vivre parmi vous. Et pendant 3 ans, Jésus se promène en Israël et il fait des miracles. Il fait des miracles. Et il fait des miracles. Et il prêche comme personne ne l'a jamais fait dans l'histoire. Il enseigne avec une puissance que personne n'a jamais vue. Les signes, les miracles se multiplient. Pendant 3 ans. Et on arrive dans Matthieu 23, 2 jours avant qu'il soit arrêté, qu'il soit battu, qu'il soit rejeté et qu'il soit crucifié. Comprenez-vous lorsque Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes petits ?» Combien de fois j'ai voulu te bénir, te prendre sous ma protection? Est-ce que vous voyez l'appel de Christ? C'est ça l'image d'ensemble. Est-ce que Dieu était si loin que ça d'eux? Il était en face d'eux bien présent. Il a fait tous les miracles nécessaires. Et ils sont rendus à cette étape où ils se préparent, ils manigancent activement pour pouvoir le faire arrêter, pour pouvoir le rejeter. Ils vont le confier aux mains des païens. Il va être battu, il va être torturé, il va être mis à mort. Dieu ne pouvait pas être plus près d'Israël que Jésus au milieu d'eux. C'est impossible. Il était juste là à côté d'eux. Est-ce que Dieu est vraiment si loin que ça? Juste là à côté d'eux. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le rejeter. Pourtant, Dieu les a appelés, Jésus les a appelés. Ce n'était pas Dieu qui était loin d'eux. C'est eux qui n'ont pas voulu entendre l'appel de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus-Christ va prononcer des mots que vous ne voudriez jamais que Dieu vous dise. Jésus-Christ va prononcer des mots sur Jérusalem, sur Israël. Vous ne voudriez jamais que Dieu, en face de vous, vous dise cela. Vous ne voudriez jamais entendre ces paroles. Pensez-y un instant. Dieu a créé les cieux et la terre. Il est esprit. On peut avoir l'impression qu'il est loin de nous, hein? Il est esprit. Il a envoyé des prophètes pour se manifester, pour se faire connaître. Il a tout donné à Israël. Israël attend un Messie, attend un Sauveur. La situation est critique pour Israël parce qu'ils sont sous une domination romaine. Ils ne voient pas la gloire et la puissance de Dieu au milieu d'eux. Et là, Dieu décide de venir au milieu d'eux dans la personne de son Fils. Il va se manifester par des miracles plus grands que les miracles de Moïse. Il va se manifester avec une sagesse qui dépasse tout ce que Moïse a enseigné. Il explique ce que Moïse a enseigné avec une clarté d'esprit tellement plus belle, tellement plus grande. Mais il le rejette. Et à ce moment-là, Jésus-Christ regarde Jérusalem dans les yeux. Et voici ce qu'il leur dit. « Je suis venu vers vous. Je voulais vous bénir abondamment. Je voulais vous accorder toute ma grâce. Je voulais vous donner toutes mes bénédictions. Je venais moi-même pour vous sauver de vos péchés. Mais vous n'avez rien voulu savoir de moi. Vous me rejetez en face. » Je m'en vais. Je me retire. J'ai compris. Et Jésus-Christ part. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Si vous êtes chrétien, pensez à cela un instant. Christ vous regarde dans les yeux, vous parle pendant des années, et s'il vous disait en face, tu ne m'écoutes pas. Je veux te bénir, je veux te sortir de ta misère, je veux t'aider à grandir, je veux t'aider à être heureux, je veux t'aider à trouver la joie de ton salut. Je te parle depuis des années, mais tu ne m'écoutes pas. Débrouille-toi tout seul, mon homme. Moi, je m'en vais. Et vous savez, il y a un parallèle pour les chrétiens, hein? On appelle ça attrister l'Esprit de Dieu. Il semble même qu'on peut éteindre l'Esprit de Dieu. Alors, Christ ne nous quittera pas, mais il va devenir tellement silencieux que tout ce qui était censé faire du sens ne fait plus de sens. Le christianisme ne nous apporte plus la vie parce que nous n'avons pas voulu écouter ce que l'Esprit de Dieu avait à nous dire. Dieu, à travers la personne de son Fils, est en train de dire à Israël, « Je te quitte et ta maison sera laissée déserte. » Quand Dieu quitte la maison, c'est la dévastation. Quand Dieu livre un homme à lui-même, c'est la dévastation. Maintenant, j'aimerais que vous saisissiez quelque chose ici. Est-ce que Jésus-Christ se retire parce qu'il manque de compassion? Est-ce que Dieu se retire ici parce qu'il manque d'amour envers eux? Jésus-Christ leur dit clairement, il dit, « Vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois j'ai essayé? » Combien de fois je t'ai parlé? Combien de fois je t'ai appelé? Mais tu ne veux rien savoir. Comprenez-vous que lorsque Dieu se retire, ce n'est pas par un manque d'amour qu'il se retire. C'est tellement tentant pour nous, n'est-ce pas, de rester là dans notre petite misère lorsque Dieu nous appelle depuis des années, puis on est là dans notre misère, puis on dit « Mais t'es pas là, mais t'es pas là, mais t'es pas là. » Puis pendant des années, il est là, il tape sur l'épaule. Il te présente l'Évangile pour ton salut. Si tu es chrétien, il te montre comment te repentir, quitter certains péchés pour vivre enfin la joie de ton salut. Mais on est là, centré sur nous-mêmes, puis on dit, « Mais t'es pas là. Mais tu m'aimes pas. Lorsque Dieu se retire, c'est jamais parce qu'il manque de compassion. Comprenez-vous cela? Il pleure sur Jérusalem. C'est eux qui n'ont pas voulu de lui. Quand Dieu se retire, ce n'est pas parce qu'il manque d'amour. Ce n'est pas parce qu'il manque de grâce. Ce n'est pas parce qu'il manque de compassion envers nous. C'est parce que nous ne voulons rien savoir de lui. Et on pourrait être tenté de dire que dans le passage ici, ça se résume à Israël et Dieu. La relation entre un peuple qui a été choisi, et là c'est simplement Dieu qui se retire d'Israël. Dans 1 Timothée 2, je vous lis le passage. Je veux faire une parenthèse parce que si vous êtes comme moi, des théologiens en herbe, puis vous posez des grandes questions sur l'élection, puis tout ça, là, vous arrivez vers ces passages, puis vous dites, « Ouais, mais comment ça fonctionne, ça? » Ce que je voudrais clarifier avec vous, c'est que je ne ferai jamais dire aux Écritures ce que la Bible ne dit pas. D'accord? Je crois dans l'élection, je le vois dans les Écritures. Mais lorsque Dieu se retire, c'est parce qu'on l'a rejeté. Et c'est vrai avec Israël, et c'est vrai avec tous les hommes. 1 Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, et je m'en vais au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors nous étudions la parole de Dieu et nous cherchons à comprendre des questions qui sont des fois difficiles par rapport à l'élection ou des choses comme ça. Et je crois dans l'élection. Mais je ne ferai jamais dire aux Écritures ce que Dieu ne dit pas dans sa parole. Lorsque Dieu se retire, c'est parce que nous l'avons rejeté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Romains 1, tournez avec moi, s'il vous plaît. Romains 1, 18. Alors, on vient de voir dans Matthieu 23 que Jésus reproche à Israël de ne rien vouloir savoir de lui. Bien, Paul répond à la question, « Oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de tous les hommes, ceux qui ne sont pas d'Israël? Sont-ils vraiment responsables d'avoir rejeté Dieu, de rejeter l'Évangile? » Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Tous les hommes sur la terre savent que Dieu existe, autant ceux qui se déclarent athées que les autres. Et Dieu nous dit dans sa parole que c'est à cause de la méchanceté de notre cœur, la dureté de notre cœur, que nous ne voulons pas crier à Dieu. Je vais le dire comme ça. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va se retrouver devant le trône de Dieu et qui va dire à Dieu, « Dieu, je t'ai cherché toute ma vie! » Je désirais marcher dans tes voies, mais tu m'as rejeté. Tu n'as rien voulu savoir de moi. Ça ne se produira jamais. Parce qu'à tous les hommes qui vont avoir refusé de se convertir à Jésus-Christ, Dieu va dire, tu n'as rien voulu savoir de moi. J'étais tout près de toi et tu m'as rejeté. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Lorsque Dieu se retire, c'est parce que nous n'avons rien voulu savoir de lui. Écoutez, pensez-y un instant. Est-ce que Dieu est un être si dur et si sévère pour avoir envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix? Moi, je me suis converti vers l'âge de 18-19 ans, d'accord? J'avais entendu l'Évangile quand j'étais tout petit. Mais si j'avais pu juste être sauvé sans lui obéir, tu sais, comme une banque où tu te fais pardonner tes péchés au fur et à mesure que tu en fais, mais tu continues à faire ce que tu veux de ta vie, bien, dans ce cas-là, j'aurais été un chrétien. Mais je ne voulais pas d'un Seigneur sur ma vie. Alors, je me suis converti par la grâce de Dieu à l'âge de 18-19 ans, lorsque je suis tombé à genoux et j'ai dit, « C'est bon, Seigneur. Je veux ton pardon. Je veux ta direction sur ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu viennes régner sur ma vie, Seigneur. » C'est seulement à ce moment-là que je me suis converti, d'accord? Seulement à ce moment-là. Est-ce que Dieu est si dur? J'avais été rebelle pendant des années, je vivais dans le péché. Et tout ce que j'avais à faire pour devenir chrétien, pour être sauvé, pour être pardonné de mes péchés, c'était à poser un acte de foi dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Je posais un acte de foi et c'est lui qui prenait toutes mes souffrances, tout le jugement qui devait venir sur moi, sur mes épaules. S'agit-il vraiment d'un Dieu qui manque de compassion? Venez me demander de donner mon fils pour vous, ma fille pour vous. Je ne le ferai pas. Ça va prendre vraiment direction de l'Esprit de Dieu pour que je sois prêt à faire ce sacrifice-là. Mais on regarde à Dieu puis on dit « Ah, il est loin, il est distant. » Non, il a donné son fils qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et tout ce que j'ai à faire, c'est placer ma foi en lui. Et je suis pardonné de mes péchés à ce moment-là. Et il me remplit de son esprit, il m'aide à marcher dans la foi. Mais c'est tellement commode de voir Dieu comme un être distant et dur. C'est tellement commode de rester dans nos péchés, à vouloir diriger notre propre vie nous-mêmes, comme nous on le veut, et de se dire, il est loin, il est tellement loin, je ne le vois pas. Non, il a envoyé son fils mourir sur la croix pour tes péchés. Est-ce que Dieu est vraiment si loin que ça de nous? Ou est-ce que ce n'est pas nous qui sommes sourds et qui ne voulons pas entendre sa voix? Mais voyez-vous, ici à Jérusalem, Jésus-Christ était au milieu d'eux. Il était au milieu de son peuple et il demeurait sourd à sa voix. Il n'entendait pas son amour. Il n'entendait pas sa grâce. Il n'entendait pas sa compassion. Et Jésus leur dit, « Vous avez fait votre choix. Je me retire maintenant. Et votre maison sera laissée déserte. » Et vous savez quoi? L'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui est extrêmement triste. L'histoire du peuple d'Israël est extrêmement triste. Le Seigneur Jésus dit au verset 39, « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus est en train de parler ici de son retour. C'est vraiment ce que je crois, c'est ce que je vois. Il est en train de parler de son retour que nous attendons tous. Et il y a une note d'espoir là-dedans, je crois, lorsqu'il dit que des Juifs vont dire, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Paul nous dit dans la lettre aux Romains qu'il y a encore une espérance pour Israël. Il y a encore des Juifs qui vont se convertir, qui vont reconnaître en Jésus de Nazareth leur Messie qu'ils ont crucifié. Alors, il y a encore une note d'espoir. Mais regardez l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire triste. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué avec son Messie. Oh, il y a des Juifs qui se convertissent et qui croient en Jésus-Christ. Mais ils font exception. Ils font exception. Est-ce que Dieu te court après depuis des années? Est-ce que Dieu t'envoie ses messagers depuis des années pour t'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ? Tu as été élevé dans une famille chrétienne, c'est pas compliqué. Tes parents te parlent de Christ depuis des années. Tu as des enfants, tu as de la famille qui est au Seigneur, qui ont saisi l'Évangile. Le Seigneur te parle depuis des années. Il n'est pas si loin que ça de toi. Combien de temps vas-tu rester sourd? Attendras-tu qu'il se retire et qu'il dise, « Je respecte ton choix. » Et je quitte cette place. qu'il te livre à toi-même. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est très près de nous. J'ai intitulé mon message « Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre Jésus-Christ? » Vous voyez, j'ai terminé avec la fin du passage, les derniers versets, parce que je pense qu'il faut se rendre jusque-là pour comprendre toute la dureté, la sévérité de Jésus à l'égard des pharisiens. C'est lourd ce qu'il dit. Il les traite de race de vipères, de sépulcres blanchis, d'hypocrites. Et il prononce des malheurs, 7 malheurs sur eux. C'est très sévère ce qu'il dit là. Mais je crois qu'il faut aller à la fin pour voir l'amour de Christ et comprendre que Jésus arrive au terme de son plaidoyer avec eux. Il en a assez de les interpeller, de les appeler. Voyez-vous, les scribes et les pharisiens étaient les spécialistes de Dieu. C'est eux qui étudiaient constamment la Bible. Hein? Ils étaient constamment dans l'Ancien Testament, ils étudiaient les prophéties, ils étudiaient les lois. C'était la crème de la religiosité en Israël. Lorsque Jésus est arrivé, quand les signes ont commencé à s'accomplir, ce ne sont pas des mages païens, comme on le voit au début de l'Évangile de Matthieu, qui auraient dû aller tomber aux pieds de l'enfant Jésus. Non? Je veux dire, c'est eux qui auraient dû être là. Et lorsqu'on a commencé à jaser, puis à dire, oui, mais où est-ce qu'il doit naître? Puis Hérode a consulté les spécialistes de la loi. Je veux dire, si ça prenait des mages pour qu'ils se réveillent, ils auraient dû quand même se réveiller puis aller adorer. Et plus tard, lorsque Jésus a commencé son ministère, et que là, il a commencé à parler avec une sagesse, mes amis, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche et commence à faire des miracles, commence à faire des choses incroyables. Des fois il va loin, tu sais, il va dire, « Je te pardonne tes péchés. » Wow, c'est Dieu qui fait ça. « OK, mais je vais faire un miracle pour te montrer que c'est peut-être moi le Messie. Fais un miracle pour appuyer cela. » Ce sont eux, les spécialistes de la loi, les spécialistes de la parole de Dieu qui étudiaient constamment les Écritures, qui auraient dû être les premiers à courir après Jésus. Ça aurait dû être des groupies de Jésus, vous comprenez? C'est eux qui auraient dû toujours être accrochés après sa robe. Puis c'est lui, ça fait des années qu'on l'attend. Oh, il est arrivé! L'ironie dans tout cela, c'est que ces gens-là sont complètement sourds à l'appel de Jésus. Et on se retrouve dans Matthieu 23, Jésus est devant ceux qui avaient tous les instruments pour pouvoir reconnaître qu'il est le Messie. Et c'est eux qui manigancent sa mise à mort, son arrestation et sa mise à mort. Alors ma question c'est, qu'est-ce qui t'empêche d'entendre Jésus-Christ? Dans leur cas à eux, c'est leur religiosité. Dans leur cas à eux, leur religiosité les empêchait d'entendre Jésus-Christ. C'est fou, hein? S'il y avait une église, ces gens-là iraient à l'église tous les dimanches. Il n'y avait pas d'église, ils allaient à la synagogue tous les samedis. C'était des gens religieux qui étudiaient les Écritures, tout ça. Mais en même temps, Jésus leur dit, « Vous avez pris tout cela sans chercher Dieu. Vous vous êtes enfoncés dans une religiosité sans chercher Dieu. Vous vous réunissez pour parler des grandeurs de Dieu, mais vous ne cherchez pas vraiment Dieu. Vous faites ça et vous enfargez dans les fleurs du tapis. Vous étudiez les versets sans comprendre qu'il vous parle d'aller vers Dieu. » Au lieu d'aller vers les Écritures pour découvrir combien Dieu est grand et combien ils sont pécheurs, et en venir à pleurer sur leur péché. Au lieu, ils se sont servis de la religion, de la religiosité pour se mettre en valeur. C'est ça qu'ils font, non? Ils sont là pour servir leurs propres intérêts. En fin de compte, la religion, pour eux, c'est un système pour les mettre en sécurité. Comme si venir à l'église dimanche après dimanche m'assurait que tout est en règle avec le Seigneur. Je vous l'ai dit dernièrement, pour moi, l'image par excellence, c'est les mafieux dans des films, dans Le Parrain, où tu les vois, ils sont à l'église, en train de manigancer la mise à mort d'un ennemi. C'est là qu'on se rencontre pour aller faire le dernier deal. Comme si venir à l'église dimanche après dimanche m'assurait quoi que ce soit. Comme si passer à travers ma routine, porter un nom, dire que je suis chrétien, m'assurait quoi que ce soit. Et ça devient un obstacle pour entendre ce que Dieu est en train de dire. Ils étaient pris dans des rituels, ils avaient des rites sans comprendre le sens. Ils n'étaient même plus capables de comprendre que ce que Dieu aime, c'est la miséricorde, la justice, la fidélité. Non, eux autres, ils se disaient, ce que Dieu aime, c'est que je m'assoie ici, Là, ça, c'est ma place. Et ça, Dieu aime ça parce que je suis ici chaque dimanche. Et puis, j'ouvre la Bible et je fais mes devoirs. Dieu aime ça. Leur religiosité les a empêchés d'entendre ce que Dieu avait à leur dire. Dans leur cas, c'est ça. Ailleurs, jeune homme riche, c'est son argent. Le jeune homme riche avait besoin de réconfort, de s'asseoir sur son argent, et c'est ça qui l'empêchait d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Il avait besoin de cette carrière qui est un succès, et lorsque Jésus commence à le challenger un petit peu, à lui dire, regarde, on va faire quelque chose. T'aimes vraiment Dieu? Prends tes richesses, donne-les aux pauvres, puis viens, suis-moi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Excuse, j'entends rien. J'entends plus rien. Dans son cas, c'est l'amour de l'argent, mais on pourrait peut-être appeler ça aussi l'insécurité financière. Hein, mettons ça en termes. C'est pas que j'aime l'argent, c'est que je suis un petit peu insécure au niveau des finances. Alors peut-être que c'est ça pour toi, qui fait que depuis des années, tu n'es pas capable d'entendre. Ou peut-être que tu es comme eux. Eux, ils servaient leur ego à travers leur religiosité. Ils étaient tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ont compris que la religion, ça servait à se mettre de l'avant. Donc, c'est leur intérêt. Ils voulaient être propre chef de leur vie, servir leurs intérêts. Peut-être que c'est ça qui t'empêche d'entendre l'appel de Dieu sur ta vie. Tu dis, c'est beau l'Évangile, mais il va falloir que lui, il ronde ma vie. Regarde, on se rappelle, OK? Je vais peut-être attendre d'avoir un bon cancer, là, sentir que les dernières minutes arrivent, puis je te donne un appel de curé, tu viendras m'expliquer l'Évangile. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'êtes pas le curé dans votre famille, vous autres? Est-ce que vous parlez toujours de Dieu? Non? Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre Dieu depuis des années? Tu veux un Jésus fait à ta main? Qui est là quand tu as besoin de lui, ça va mal au travail. Aide-moi, Seigneur. C'est correct. C'est pas suffisant. Tu ne veux pas qu'il soit le Seigneur de ta vie. C'est ta religion qui t'empêche d'entendre Jésus-Christ et son appel sur ta vie. C'est ton attachement au bien matériel qui t'empêche de l'entendre. Ce que je veux que vous voyez ce matin et qu'on réalise, c'est qu'il n'est pas loin. Il est juste à côté et il envoie ses messagers. Maintenant, je m'adresse aux chrétiens. Je partageais avec Alexandre et Cynthia cette semaine combien des fois, comme enfants de Dieu, le Seigneur nous a parlé il y a des années, il nous a montré quelque chose. Quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et je ne parle pas des sermons tous les dimanches, d'accord? Vous comprenez, moi je suis là, je prêche la parole, puis j'amène un paquet de choses à changer dans nos vies. Et certainement, Dieu a quelque chose à nous dire à chaque fois, mais Dieu ne nous demande pas de changer dans toute notre vie à cet instant. Êtes-vous d'accord avec moi? On n'y arrivera pas, ça n'a pas de bon sens, c'est farfelu. Alors, je ne parle pas de ce que vous recevez comme message en avant chaque dimanche. Je suis en train de dire, dans tous ces messages, dans ces moments où tu lis les Écritures, dans ces moments où tu parles avec un frère et une sœur, dans ces moments où il se passe quelque chose dans ta vie, puis à un moment donné, Dieu te parle, puis il dit, Yannick, il faut que tu commences à faire ça. C'est moi qui parle, là. C'est moi qui parle, Yannick. Tu négliges la prière avec ton épouse, Yannick. Tu ne pries pas assez avec Esther, vous avez besoin de faire ça. Et c'est Dieu qui me parle à ce moment-là. Ce n'est pas pour tous les chrétiens, c'est pour Yannick. Je partageais avec Alexandre et Cynthia. Des fois, le Seigneur nous parle, puis on peut rester sourd à ce qu'il nous dit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tournez avec moi dans Apocalypse 3, s'il vous plaît. Verset 19. Vous savez que c'est un passage qu'on se sert souvent hors contexte lorsqu'on veut s'en servir dans le cadre de l'évangélisation. Son premier contexte, c'est Jésus qui s'adresse à une église. Jésus qui parle à des chrétiens. Mais c'est vrai que ça ressemble pas mal à une conversion, hein? Apocalypse 3, verset 19. Jésus parle à une église. Il dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma sœur, toi qui as l'Esprit de Dieu, est-ce que Jésus se tient à la porte depuis des années? Il te demande de te repentir de quelque chose de précis. Encore une fois, je ne vous parle pas de tout ce que j'apporte chaque dimanche, vous comprenez? Je vous parle de ce que Dieu vous a dit à travers tout ce que j'apporte. Je ne vous parle pas de chaque lecture de la Bible qu'on fait. Je vous parle de ce que Dieu vous a dit à travers vos lectures. Ces messages personnels que vous avez reçus du Seigneur et que vous connaissez. Est-ce que Christ se tient à la porte depuis des années parce qu'il te dit « Commence à prendre du temps avec moi chaque jour. » Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Commence à parler de moi à tes parents. Commence à mettre tes finances en règle. Arrête de courir après le confort matériel. Je ne sais pas c'est quoi le message qu'il vous a laissé. Mais parce que vous avez le même esprit que moi, je sais qu'il vous en a laissé. Parce qu'il se tient souvent à la porte de mon cœur. Et lorsque Jésus se tient à la porte, c'est qu'il est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui manque au niveau de la communion avec Dieu. Vous entendez ce que Jésus dit dans Apocalypse 3? Il est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'est brisé au niveau de la communion. Ailleurs, dans les Épîtres, on va parler d'attrister l'esprit, voire d'éteindre l'esprit. Est-ce que tu vas dans la vie chrétienne depuis des années sans joie de ton salut? Tu n'as pas la joie de ton salut. C'est comme, c'est lourd tout ça, c'est une série de devoirs. Puis j'ai besoin chaque dimanche d'être recrinqué un peu pour réussir à faire un autre 6 jours encore. Mais je ne vis pas cette plénitude de l'Esprit-Saint. Est-ce que Christ est à l'extérieur de la porte de ton cœur depuis des années? Et il te dit, repens-toi, tu sais ce que je veux qu'il change, je te l'ai dit. Mais voyez-vous, à force de garder la porte fermée, on attriste l'esprit, voire l'éteint. Et à un certain moment donné, on a l'impression que Dieu est tellement loin de nous. Vous savez de quoi je parle, hein? On a l'impression que Dieu est plus près de nous. Il ne me parle plus. Il n'y a plus rien à me dire. J'ouvre les Écritures, ça ne me dit rien, ça ne me touche plus. Il me semble qu'il y a été un temps où la parole de Dieu me touchait, mais c'est fade, c'est lourd, il n'y a comme rien. C'est parce qu'il est dehors. Au bord de la porte, peut-être. Il cogne à la porte. Il dit, ouvre la porte, confesse ton péché. Repens-toi, vois ta pauvreté spirituelle. Détourne-toi de ton péché. Laisse-moi entrer, laisse-moi prendre la direction. Tu vas retrouver la joie de ton salut. Parce que moi, ce que je veux, c'est ton bonheur. La preuve, je suis mort sur la croix pour que tu sois heureux. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour que tu sois en paix avec Dieu et avec tout l'univers, avec toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre l'appel de Christ sur ta vie? Est-ce que Dieu te court après depuis des années et tu le gardes à l'extérieur, tu refuses l'Évangile, tu n'es pas encore chrétien? Mais il t'a parlé, c'est toi qui es sourd. Par la grâce de Dieu, j'espère que tu vas plier les genoux devant Christ avant qu'il ne dise « J'ai compris, je m'en vais. Je me retire. Débrouille-toi tout seul. » Et si tu es chrétien, s'il te parle depuis des années, cherche pas le bonheur dans un autre mode, dans un autre livre, dans une autre conférence. Tombe à genoux. Tombe à genoux. Ouvre la porte au Seigneur. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Tu vas voir, tu vas commencer à prier. Tu auras de la joie dans la prière. Tu vas commencer à ouvrir les Écritures et Dieu va te parler. Tu vas être bouleversé par des choses. Il y a toutes sortes de péchés qui vont apparaître dans ta vie. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Je ne les voyais pas. Et tu vas les confesser avec joie. Tu vas t'en détourner avec joie. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaille. Lorsqu'on est contrit par notre faiblesse, mais en paix avec Dieu parce qu'on a reçu le pardon en Jésus-Christ. Dieu n'est pas loin, mes amis. On va prier. Seigneur Jésus, nous sommes tellement sourds à ta voix.